secours et les nishmat Messaou George Ben Ferae Fani. Tov, comme on est à l'approche de Toubishvat, ce Shabbat, Bat Hashem, c'est Toubishvat, on a et Shabbat et Toubishvat, et Shabbat Shira, Pashat Beshalach. Et Toubishvat, c'est un grand jour. C'est-à-dire, bien plus que l'on imagine, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, quelle est l'importance et la grandeur de ce jour-ci. Alors on sait bien qu'à Toubishvat, on a un minhag, une habitude de manger des fruits. D'ailleurs c'est écrit que minhag Israël, Torah ou. Un minhag, c'est pas par hasard. Un minhag, c'est une Torah, ça a une importance primordiale dans la Torah. Alors on mange des fruits, pas des fruits secs, des fruits bouillis, des fruits frais, etc. Des dizaines de fruits, c'est aussi bien, c'est écrit, de chercher le maximum de fruits possible pour faire les brachot dessus. Top. Alors a priori, bon, y a une importance par rapport à la bracha. On sait bien, n'est-ce pas, qu'une bracha sanctifie l'être humain et sanctifie l'aliment qui va être consommé après une bracha. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un fruit, un aliment, on fait une bracha dessus, eh bien, on considère, on déclare que le monde n'est pas efker, que le monde appartient à Hachem, et tout ce qu'on va bénéficier, profiter de ce monde-là, eh bien, c'est parce que Hachem nous l'a donné, et Hachem aussi garantit que ces fruits et ces légumes continuent à pousser sur terre. D'ailleurs, c'est écrit dans le Prix de Sadi que les fruits continuent à pousser sur la terre grâce à nos brachot. Bracha, ça veut dire bénédiction, c'est-à-dire que le chef à la bracha, l'abondance, vient grâce à nos brachot qu'on fait sur les fruits. Donc, alors, Toubishvat, c'est écrit que ça correspond Zenikra Yom Achanata Shelaperot. C'est-à-dire que c'est à partir de ce jour, les fruits commencent à bourgeonner sur les arbres. On s'est écrit aussi que c'est uniquement en Israël, c'est-à-dire qu'à Toubishvat, la majorité des pluies est déjà tombée. Et donc, à partir de ce jour-là, les fruits commencent à bourgeonner en terre d'Israël. Et c'est pourquoi il y a un minhag de manger des fruits, toutes sortes de fruits de l'arbre ce jour-là. Top. On va expliquer un peu plus la Omek, plus en profondeur. Donc, tout d'abord, une parenthèse. On sait bien que depuis la faute d'Adam Arishon, eh bien, il y a un mélange de bien et de mal sur terre. C'est-à-dire qu'a priori, Hachem a créé le monde sans mal, sans psolète, sans résidus, sans reste, sans quelque chose qu'on a jeté. Mais tout était à consommer a priori. Lorsqu'on a dans des fruits une coquille, une peau, une écorce, un noyau qu'on a jeté, ça provient de la faute de Adam Arishon. Parce qu'a priori, les fruits étaient sans aucune coquille, sans aucun noyau. Et d'ailleurs, on constate qu'on a plusieurs catégories de fruits. Il y a des fruits qui n'ont ni peau à l'extérieur, enfin, ni noyau à l'intérieur, ni peau à l'extérieur. Comme par exemple, pas les fraises ou alors les figues. Des fruits qui ont un noyau à l'intérieur, comme les dattes et les prunes, par exemple. Des fruits qui ont une peau à l'extérieur, comme les oranges et les bananes, et des fruits qui ont les deux, et un noyau, et une peau à l'extérieur, comme l'avocat. Et ces différents fruits correspondent à plusieurs mondes célestes. C'est-à-dire qu'un fruit qui n'a pas de coquille, pas de noyau, pas d'écorce, il est plus facile à le sanctifier, à l'élever spirituellement. Parce qu'en effet, il est plus proche du bien, plus proche, n'est-ce pas, il est déjà plus kadosh, plus sanctifié, a priori. Alors qu'un fruit qui possède, n'est-ce pas, et un noyau et une peau à l'extérieur, il est plus difficile à élever, et donc il faudra a priori même peut-être plus de kavana lorsqu'on fait la bracha sur ce fruit. Donc, c'était une parenthèse. Ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est l'importance de cette journée en soi. Avant de parler des fruits, et ensuite on va expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre travail personnel. Alors on va faire une petite introduction. Il y a une gemara dans Rosh Hashanah, Daf Yudalet, Daf Kavzain, qui dit la chose suivante. Alors, nous, on sait bien qu'on fête Rosh Hashanah, le premier Tishri, le jour de l'an, le premier jour de l'année, dans le calendrier hébraïque, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah. Top. Mais réellement, c'est une machloket dans la Gemara. Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que le monde a été créé en Tishri ou alors en Nissan? Est-ce que Hachem a créé le monde le premier Tishri ou le premier Nissan? Top. Mis à part cela, c'est écrit que lorsqu'on parle de la création du monde, le premier Tishri ou Nissan, on ne parle pas de la création du monde, mais de la création de l'homme de Adam Harishon. Est-ce qu'il a été créé le premier Tishri ou le premier Nissan? Bon, je fais ici une parenthèse qui ne nous concerne pas directement, mais c'est bon à savoir. Il y a un Tosfot dans Rosh Hashanah Kafzayin qui explique en fait cette machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc d'après Rabbi Yoshua, le monde a été créé en Nissan, d'après Rabbi Eliezer en Tishri. Eh bien, les deux ont raison. Et n'est-ce pas une machloquette dans la Mitzvot, dans l'état des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il y avait une création du monde dans la pensée d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, ainsi que dans l'action. Hachem a pensé créer le monde en Tishri, mais il l'a créé réellement en Nissan. Alors, lorsqu'on parle de pensée d'Hachem, sa pensée, c'est déjà une création réelle, spirituelle, divine en soi. C'est pourquoi ça a aussi une importance particulière. Mais réellement, le monde a été créé en Nissan. Top, je reviens à notre sujet. Donc, on a dit que le premier Tishri ou Nissan, eh bien, Hachem a créé Adam Harishon. Donc, en fait, le monde a été créé 6 jours auparavant. Si on prend 6 jours avant le premier Tishri, ça nous donne le 25 Elul. Et 6 jours avant le premier Nissan, ça nous donne le 25 Adar. Top. Là, on parle de création du monde, ce qui s'appelle en hébraïque Yetzirat. Yetzirat Adam, Yetzirat Haolam. Top. Maintenant, il y a une Gemara qui nous dit Arbaim Yom Lifne Yetzirat Avlad. C'est-à-dire que lorsque un fœtus est créé, eh bien, sa création réelle, sa neshama, eh bien, elle est créée 40 jours après la conception. Il y a la conception, 40 jours après uniquement, c'est là où le fœtus est considéré comme créé avec une neshama. Il y a aussi certaines halakhot qui découlent de cela. Par exemple, si une femme a fait une fausse couche pendant les 40 premiers jours, eh bien, cette fausse couche n'est pas considérée, c'est-à-dire que si elle a eu un enfant après, eh bien, cet enfant sera considéré le premier-né, le Bechor. Parce que, n'est-ce pas, l'enfant n'est pas encore considéré créé, uniquement à partir de 40 jours après la conception. Top. Alors, pour le monde, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle étroit entre l'être humain et le monde. C'est que, pour le monde aussi, lorsqu'on parle de la création du monde, qu'on a dit que c'est le 25 Elul ou 25 Tishri, eh bien, si on prend 40 jours avant, qui va correspondre à la conception du monde, ça nous donne 40 jours avant le 25 Adar, ça nous donne tout Bishvat exactement. Par aussi, avant le 25 Elul, 40 jours avant, ça nous donne tout Be'av, le 15 Av, qui est aussi une date importante, mais bon, ça c'est un autre cours, attaché. Donc, tout Bishvat, ça correspond à quoi? Ça correspond réellement à la conception du monde. Et la conception du monde, n'est-ce pas, dans l'action, comme on a dit, au nom de Tosfot, c'est que le monde a été créé réellement le premier Nissan. Donc Adam Harishon a été créé le premier Nissan. Le monde, le 25 Adar. Et donc la conception de ce monde, ça débute à partir de Tu Bishvat. Donc c'est pourquoi cette date est importante. Non seulement par rapport aux fruits, mais parce qu'en fait, c'est le tout début, c'est le commencement du monde. C'est là, n'est-ce pas, où on va dire qu'au ciel, Hachem a réellement commencé à créer le monde à partir de Tu Bishvat. Concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait, n'est-ce pas, qu'on a le monde céleste, le monde a été commencé à créer ce jour-là de Tu Bishvat. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est que Hachem a fait en quelque sorte qu'en terre d'Israël, eh bien les fruits commencent à bourgeonner à partir de ce jour-là. Pourquoi? Alors, là encore, on dit le Pri Tzadik ainsi que le Maharal et le Ramchal, que lorsqu'on fête n'importe quelle fête de l'année dans la Torah, dans le judaïsme, il ne s'agit pas uniquement d'un souvenir, d'une commémoration, d'une fête qui s'est passée il y a des millénaires. Mais ça consiste surtout essentiellement à revivre à nouveau ce qui s'était passé. Par exemple, lorsqu'on parle de la fête de Pessah, qu'on vient relater que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, eh bien, il ne s'agit pas uniquement de se rappeler de cet événement, mais on veut te dire que, attention, tu as la possibilité, chaque année à Pessah, d'être délivré à nouveau. Quand on dit dans la Gada, « Bechol davador, hadam dir ot tatsmo, kilu yatsa atamitzrem » comme s'il est sorti à présent d'Égypte. Alors, par aussi, lorsqu'on va aborder cette fête, cette demi-fête qui s'appelle Tu Bishvat, eh bien, puisque cette fête correspond à la création du monde, au tout début, au commencement de la création du monde, la conception du monde entier. Eh bien, ça veut dire que pour nous aussi, on a la possibilité de se renouveler, de recommencer notre année, de recommencer notre vie dès le départ. On va expliquer. On a dit que ce jour-là, ça correspond au début du bourgeonnement des fruits dans les arbres en Israël. La Torah nous dit qu'il y a Adam et Tzassadé. L'homme est comparé à l'arbre. Il y a aussi un verset dans Michelet qui nous fait un parallèle entre l'être humain et le monde entier. Alors lorsqu'on parle de la création du monde, renouvellement de la création du monde, eh bien pour nous c'est aussi un moment, une période propice pour se renouveler encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? On va donner quelques exemples pour essayer de concrétiser la chose. Bien souvent, on essaye d'avancer dans la vie. On veut avancer. On est dérangé par tel défaut, par tel vice, par tel problème. Alors ça peut être dans le domaine des mitzvot, dans le domaine du caractère, dans le domaine de nos rapports avec la famille, les camarades, etc. Alors bon, on fait des efforts. Des fois ça marche, ça ne marche pas. Et bien souvent, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on prend, on saisit le problème de façon superficielle et on va aller chercher un remède qui lui aussi est un remède en superficie. Je vais expliquer. Un exemple. Imaginez que quelqu'un, il a des boutons sur la peau, il a de l'acné, etc. Top. Alors il va voir un médecin. Un médecin, on va dire, qui n'est pas, je veux dire, pas très compétent. Qui va lui donner une pommade qui va peut-être lui atténuer la douleur. Et peut-être plus ou moins guérir, faire disparaître le bouton pendant quelques jours, quelques semaines. Mais, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après quelques semaines ou quelques mois, les boutons réapparaissent encore une fois. Pourquoi? Parce que le problème n'a pas été résolu à la base, à la racine. Parce qu'en effet, ces boutons, c'est uniquement, c'est un symptôme qui est un problème dans le fonctionnement intérieur du corps humain. Par exemple, si vous allez chez un grand spécialiste, il pourra vous dire qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement du foie. C'est ce qui cause, n'est-ce pas, certains boutons sur la peau. Un autre vous dira que ça peut être, des fois, dans un autre cas, un problème au niveau de la digestion. Si certains aliments sont mal assimilés, eh bien, ça peut causer des boutons sur la peau. Bon, sans être trop complet dans la matière, je donne quelques exemples à droite à gauche. Alors, c'est pareil lorsque nous, on aborde certains domaines de la Torah du judaïsme. Et on a bien souvent envie d'avancer, de progresser. Mais bien souvent, on va chercher le remède, un remède qui est superficiel. Et c'est pourquoi on ne va pas arriver à aller très loin. Et après quelques semaines, on s'essouffle et on abandonne partie. On va donner quelques exemples. Bien souvent, on éprouve une certaine difficulté à se concentrer dans la tefila. Alors on fait la tefila, on veut la faire, on se lève tôt, on prend, n'est-ce pas, un certain temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, chacun selon le temps disponible, pour faire la tefila, et on n'arrive pas à se concentrer. Notre esprit est dispersé à droite, à gauche, il est perturbé par plusieurs pensées, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de se crisper, de se stresser, pour essayer de maintenir la concentration sur la tefila, sur le Shema Israël, sur la Amida. Alors bon, ça ne marche pas, ou ça marche quelques secondes, quelques minutes. Et de nouveau, n'est-ce pas, notre esprit est dispersé, et il est en train de vagabonder, pas dans n'importe quel pays du monde, etc. Top. Alors pourquoi? Parce que là aussi, on n'a pas saisi le problème à la base. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer dans la tefila. Par exemple, si je prends un livre qui est passionnant, qui est intéressant, eh bien, j'aurai aucun problème pour me concentrer. Évidemment, n'est-ce pas, je me concentre, je comprends ce que je lis, de façon automatique, n'est-ce pas, ça coule tout seul. Alors, pourquoi est-ce que pour la tefila, j'arrive pas à me concentrer? Alors, peut-être, si on cherche à la base, à la racine, c'est le problème se situe, par exemple, parce que je ne sais pas ce que c'est la tefila. Je ne comprends pas pourquoi il faut prier. Je n'arrive pas à comprendre dans mon inconscient. Comment est-ce que ma tefila peut agir? Si Hachem a décidé telle ou telle chose pour moi, comment est-ce que je peux agir dans la décision d'Hachem, transformer les desseins divins en ce qui me concerne. Des fois, n'est-ce pas, on n'arrive pas à se concentrer parce qu'on ne se prépare pas suffisamment à la tfila. On se lève le matin et on se jette directement sur le sidour sans préparation auparavant. Bon, je cite quelques exemples, mais il peut y avoir beaucoup d'autres raisons pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se concentrer dans la tfila. Un autre exemple. Il nous arrive malheureusement de dire beaucoup de lashon hara à droite à gauche. On se met à critiquer, à calomnier, etc. Donc, alors là aussi, on sait que c'est interdit, on sait que c'est mauvais. Bon, on sait que c'est grave même par la Torah. Alors on décide un beau jour, c'est peut-être même le jour de Kippour, d'arrêter de dire du lashon hara. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se retenir, on a envie de critiquer, et on se retient de force de ne pas critiquer. Et ça marche pas. Pourquoi ça ne marchait pas toujours? Parce que là aussi, le problème n'a pas été résolu à la racine, à la base. La base du Lashon Hara, eh bien, c'est Ahavat Israël. Le problème ne se situe pas dans la parole. La parole, c'est déjà, n'est-ce pas, un stade qui est déjà avancé, qui est déjà dépassé, qui est déjà révolu. C'est qu'auparavant, on a constaté beaucoup d'éléments négatifs et péjoratifs chez la famille, chez les camarades, etc. Et on est en train, n'est-ce pas, de se les répéter dans son cerveau, jusqu'à ce que, lorsqu'on a l'occasion de les raconter, on n'arrive pas à se retenir, ou alors on se retient de force. Résoudre le problème à la base, eh bien, consisterait plutôt de faire un travail, surtout dans Ahavat Israël, d'une part, d'aimer son camarade, pas d'avoir des sentiments qui vont être mauvais, négatifs, péjoratifs à son égard. D'autre part, il y a aussi un autre travail qui s'appelle la doun le kavzechout. Même lorsque tu as constaté un défaut, un vice chez ton camarade, eh bien, tu peux essayer de trouver à son égard une façon de le justifier, de le comprendre. Même s'il a fait une erreur, même s'il a fait une avéra, on peut le comprendre sans lui donner raison, mais des fois on peut le comprendre. Alors des fois, n'est-ce pas, ça peut être, enfin, je cite quelques exemples, ça peut être une façon d'éviter le lashon hara à la base, et c'est bien plus facile, et c'est plus, ça tient plus la route, plutôt que de se retenir de force. Troisième exemple, on a de nos jours, c'est avec le stress, avec la course, on a beaucoup d'occasions de s'énerver, et d'être coléreux, sur tel ou tel événement, sur telle personne, etc. Et là aussi, on décide un beau jour, lorsqu'on constate de temps en temps les conséquences graves de la colère et de l'énervement, on décide de ne plus jamais s'énerver. Ça peut être uniquement une réflexion personnelle, ça peut être lorsqu'on fait une grande tchouva, ça peut être un jour de Kippour, ou alors bon, dans d'autres circonstances qui sont personnelles à chacun d'entre nous. Top. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la ferme résolution de ne plus jamais s'énerver. Et donc, en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que lorsque tu vas t'énerver, eh bien, tu vas te retenir de ne pas exploser, de ne pas piquer une crise de nerfs. Bon, je ne dis pas, c'est bien aussi, c'est très important, c'est déjà une chose importante en soi de ne pas exploser de nerfs lorsqu'on a une occasion de s'énerver. Donc, mais là encore, ça ne peut pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois résoudre le problème en superficie, comme si on met une pommade sur, pas une peau qui est altérée, une peau pleine de boutons, mais ça n'a pas résolu le problème à la base. Là aussi, il faut chercher pourquoi est-ce que je m'énerve. Lorsqu'on va chercher, lorsqu'on est intéressé à résoudre le problème à la racine, il faut chercher quelle est la cause du problème. Parce que l'énervement, la crise de nerfs, ce n'est qu'une conséquence de tout ce qui s'est passé dans ta personnalité pendant quelques minutes, quelques heures, quelques journées entières. Alors qu'est-ce qui m'a amené à m'énerver contre telle personne ou alors contre tel événement? Alors des fois, ça peut être un manque de émouna. Pourquoi un manque de émouna? Parce que on doit avoir, par la Torah nous enseigne, que tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, ce n'est pas un hasard. Ce qui se passe autour de nous, c'est dirigé par Hachem. Dit la Gemara, en adam, no kef, etzba omi le matin, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. C'est-à-dire qu'une personne ne pourra pas blesser son doigt ici bas sur terre, à moins qu'on l'a décrété auparavant au ciel. Tout ce qui t'arrive, c'est prémédité auparavant au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est, n'est-ce pas, des marionnettes. Évidemment, on a le libre choix. Tout ce qu'on fait, n'est-ce pas, on l'a choisi. Mais cependant, tu es toi en train de causer par tes mitzvot, par tes averot, par tes tefilot, par tes mérites, etc., tout ce qui va t'arriver. Maintenant, ça peut arriver par une telle personne, ça peut arriver par, par un animal, ça peut arriver par un fait, un événement de la nature, ça peut arriver de 36 façons. Là aussi, Hachem donne aux êtres humains la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire de bon ou de mauvais. S'il n'y a personne qui se choisit de le faire, eh bien Hachem t'enverra, n'est-ce pas, un fait, un événement de la nature, ou alors un animal qui va réaliser ce qui a été décrété au ciel auparavant, décret bon ou alors mauvais. Alors bon, c'est un sujet à part en soi, mais de façon brève, c'est important d'être imprégné de cette émouna, que rien au monde peut arriver sans que ça ait été décrété au ciel. Il y a une lettre du Stepler, de Rav Kanevski, qui écrit la chose suivante. Il dit que tu ne peux jamais ajouter ou diminuer quelconque souffrance ou quelconque plaisir à n'importe quelle personne au monde. Ni à toi, ni à autrui. Parce que tout plaisir ou toute souffrance est décrété auparavant. Et si tu es en train, n'est-ce pas, de chipper, d'arracher des plaisirs qui ne te reviennent pas, eh bien tu devras comme les rembourser. Le Gaon Vilna dit la chose suivante. Quelqu'un qui a volé une grosse somme d'argent, on va dire, il a volé 1 million d'euros. Et cette somme d'argent, il l'a gardée toute sa vie et même l'a laissée en héritage à ses enfants. Eh bien, dit le Gaon Vilna, ça veut dire que cette somme d'argent lui était prédestinée auparavant. Hachem avait décrété que cet homme-là posséderait telle somme d'argent. Mais lui, par malheur, il a choisi de faire une avéra, donc il a choisi un mauvais chemin pour récupérer cet argent qui lui était prédestiné auparavant. S'il n'avait pas volé, eh bien, tôt ou tard, il aurait gagné à la loterie, ou gagné au travail, ou l'a reçu en cadeau, ou par quelconque autre façon que Hachem lui aurait envoyé cette somme d'argent. C'est-à-dire que tout ce que tu as ou tout ce que tu n'as pas, eh bien, a été décidé auparavant par Hachem. Et donc, dit le Baal HaTanya, c'est pourquoi on ne peut jamais s'énerver contre quoi que ce soit, contre qui que ce soit. Parce que s'énerver, c'est comme tu considères, c'est lui, c'est toi qui m'as fait du tort. Il m'a insulté, il m'a pris, m'a volé, et c'est un manque de émouna. Parce qu'on oublie que ça a été auparavant décrété par Hachem. Si on est rempli de émouna, que c'est Hachem qui a envoyé telle souffrance, tel problème, eh bien on ne peut jamais s'énerver. Bon, c'est un exemple pour expliquer de quelle façon on peut résoudre le problème à la base, à la racine, et non pas en superficie. En superficie, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est se retenir de force, se crisper, se stresser, pour ne pas exploser de colère. Se crisper pour la tfila, pour essayer de maintenir la concentration. Pas aussi pour le lashon hara, eh bien, se retenir de ne pas dire une phrase, une critique sur telle personne, parce que tu sais bien que c'est interdit par la Torah. Alors que résoudre le problème à la base de la racine, c'est chercher quelle est la cause réelle, quelle est la raison qui te pousse à dire du lashon hara, qui te pousse à t'énerver, qui t'empêche de te concentrer sur la tfila, et résoudre le problème à la base de la racine. Top. Alors on revient à notre sujet, on revient à Tu Bishvat. C'est que toute l'année, on doit évidemment, lorsqu'on veut avancer, progresser, alors on doit évidemment essayer de comprendre quelle est la cause de nos problèmes, de nos défauts, de nos vices, de nos averot, etc., pour essayer d'avancer, de progresser, et résoudre le problème, non pas en superficie, mais à la base, à la racine. Alors bon, entre parenthèses, il est vrai que dans certains cas, on doit, oui, avoir accès à la pommade, c'est-à-dire qu'on doit, oui, se servir des moyens qui sont superficiels et qui sont provisoires. Pourquoi? Parce que des fois, c'est urgent. Alors, on n'a pas le temps de traiter le problème à la racine, mais on doit agir de façon spontané, de façon provisoire, alors on se suffit, n'est-ce pas, d'un remède, même s'il est momentané. Bon. Mais on doit savoir que ce n'est pas une solution générale et totale. Mais on doit chercher de façon générale à résoudre le problème à la base. Alors, c'est vrai pour toute l'année, cependant, lorsque la fête de Toubichouat, elle arrive, eh bien, c'est une occasion qui est propice à cela. Pourquoi ? Comme Toubichouat, on l'a expliqué, que c'est là où les fruits commencent à bourgeonner, parce qu'en effet, c'est là où Hachem a réellement commencé à créer le monde. C'est là la conception première du monde. Et on a expliqué, on dit Ramchal, que l'être humain aussi se renouvelle avec les arbres, avec le monde, puisque l'homme, n'est-ce pas, est comparé à l'arbre, l'homme est comparé au monde. C'est-à-dire que si Hachem renouvelle son monde, si encore une fois, n'est-ce pas, c'est la conception du monde, et bien pour nous aussi, on peut se renouveler. Et se renouveler, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, encore une fois, de progresser, d'arranger ce qui ne va pas en nous, à la base, à la racine. Et sachez que c'est bien plus facile que toute l'année. C'est-à-dire que lorsque tu prends, n'est-ce pas, tu prends quelque chose dès le départ, dès le début, c'est beaucoup plus facile. Prends un enfant lorsqu'il est très petit, à son jeune âge, c'est plus facile de l'éduquer que lorsqu'il a 20 ans ou 30 ans, et plus fortement lorsqu'il a 60 ans. Alors qu'alors qu'on est Cholcheken, lorsque le monde est à son départ, lorsqu'on est à la conception du monde, et c'est un événement qui a une projection, qui a des conséquences sur l'être humain aussi. Pour nous aussi, c'est une possibilité de nous métamorphoser de fond en comble, et à la base, c'est encore plus facile. Encore un point à citer, c'est que Toubichvat, c'est toujours dans la période qui s'appelle Shoavim. Shoavim, pas une période de 6 semaines, qui est depuis Shmot jusqu'à Mishpatim. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Magid, Mesharim a dit au Bet Yosef, que ce qu'on réalise dans cette période qui s'appelle Shoavim, ça a plus d'impact sur nous, ça a plus d'importance, et bien on peut plus s'arranger, se réparer, on peut plus être métamorphosé, puisque c'est dans la période de Shoavim. Et Toubichvat tombe toujours dans cette période-là. Donc c'est encore pour nous une occasion qui est encore plus propice d'être transformé par rapport à cette de Toubichvat. Encore un dernier mot, c'est que bien que c'est une fête de Toubichvat qui commence à partir du jour qui est appelé Toubichvat le 15 Shvat, mais cependant, comme pour le fœtus, eh bien, depuis la conception jusqu'à la création, il y a exactement 40 jours, on a du 15 Shvat jusqu'au 25 Adar, on a 40 jours, et c'est là, n'est-ce pas, où est créé le fœtus, d'ailleurs c'est écrit que c'est là, n'est-ce pas, où il a réellement une neshama, une âme. Eh bien pour nous aussi, c'est-à-dire que ça débute à Toubichvat, mais cette façon de travailler, de se transformer, c'est pas uniquement pendant une journée de Toubichvat, mais c'est pendant les 40 jours qui vont de Toubichvat jusqu'au 25 Adar. Et si on arrive réellement à travailler, à progresser comme il faut pendant ces 40 jours de Toubichvat jusqu'au 25 Adar, eh bien c'est là, n'est-ce pas, où le 25 Adar, on bénéficie d'une création nouvelle, c'est-à-dire que Hachem nous crée à nouveau. D'ailleurs, le Midrash nous dit, par rapport à la Tshuva, si vous faites Tshuva, ani borotrem biria hadasha. Hachem dit que si vous faites Tshuva, je vous crée, n'est-ce pas, une nouvelle créature. C'est-à-dire que la Tshuva peut toujours transformer l'être humain. C'est ça le chidush de la Tshuva. La Tshuva, ce n'est pas uniquement une transformation de quelques éléments, quelques caractéristiques dans sa personnalité. Mais c'est la métamorphose de la personne de fond en comble. C'est pourquoi le Rambam dit dans le Chot Tshuva que Midarka Tshuva, c'est de changer son nom. Quelqu'un quand il fait Tshuva, eh bien, les sentiers, les chemins de la Tshuva, c'est d'avoir un autre nom. Bon, de jour on ne le fait pas, mais dans le temps il le faisait. Pourquoi dit le Rambam? C'est comme pour dire, je suis une autre personne. C'est plus Réhouven qui a fait telle faute, mais c'est Shimon qui n'a plus aucune faute. Alors lorsqu'on vient aborder des périodes si importantes qui sont, n'est-ce pas, Toubichvat, qui se poursuivent pendant 40 jours jusqu'au 25 Adar, on a la possibilité d'être transformé, d'être métamorphosé de fond en comble. On va dire encore un dernier mot, c'est que puisqu'en effet, on a cité que c'est important, c'est bien de goûter les fruits et de faire des brachot sur ces fruits le jour de Toubichvat. Top. Alors, comme on l'a dit auparavant, c'est que chaque bracha vient nous sanctifier. D'ailleurs, pour certaines brachot, on dit même Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzvanu. Kideshanu, ça veut dire sanctifié, sanctification. Une personne qui est sanctifiée, eh bien, elle a été transformée par cette sanctification, c'est une autre personne. Une personne qui est sanctifiée, eh bien, après sanctification, chaque mitzvah qu'elle va aborder, que ce soit le Shabbat, la Kashrut, la Tfila, Pessah, Hanouka, Sukkot, eh bien, il va l'aborder de façon différente grâce à cette Kedusha, à cette métamorphose que cette Kedusha lui a donnée. Ça veut dire que chaque bracha, elle peut nous transformer. Malheureusement, on a l'habitude de réciter les brachot de façon un peu trop rapide. Comme disait le Rav Pinkus de Chanavracha, c'est que la bracha, elle prend le temps exactement de prendre, n'est-ce pas, l'aliment ou la boisson, de le saisir et le mettre en bouche, c'est le temps de la bracha exactement. On jette la bracha de notre bouche sans penser à ce qu'on va dire auparavant. Alors qu'en fait, une bracha c'est quoi? C'est une prise de conscience que tu parles à Hachem. Tu es en face d'Hachem, 100 fois par jour, on a au moins une centaine de brachot par jour, lorsqu'on fait 3 tefillot et 2 repas, on a plus d'une centaine de brachot par jour. Nos sages ont instauré cela, pourquoi? C'est pour nous bénir de 100 brachot, et d'ailleurs ça va aussi nous faire éviter les 100 malédictions qui sont dans la Torah, de Parashat Kitavo et de Nitzavim. Si on les fait, évidemment, Be Kavana, avec une pensée auparavant. Alors les maasés, c'est tellement simple à réaliser, et malheureusement, pour nous, c'est pas assez réalisé. C'est très simple à changer d'attitude dans ce domaine-là. Si on fait, on marque un temps d'arrêt, avant chaque bracha, ne serait-ce que de quelques secondes, et bien automatiquement, la bracha est transformée. De penser avant chaque bracha qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va prononcer, automatiquement la bracha elle a été transformée. Alors bon, c'est écrit dans un livre au nom de Rabbi Yehuda Tzadka, que Rabbi Tzadka disait que lorsqu'on arrive au ciel, eh bien on va examiner les centaines de milliers de brachot qu'on a récitées dans notre vie. Et on va vérifier quelles sont les bonnes brachot et quelles sont les mauvaises. Donc, quel bracha a été récité alors qu'on a avalé un mot, des fois en avalant d'Hachem, et quel bracha a été récité alors qu'on a bien prononcé chaque syllabe. Mis à part cela, quel bracha a été récité de kavana, avec intention, avec pensée, méditation, ou quel bracha on a jeté de la bouche sans réfléchir auparavant. Et malheureusement, on va trouver que la plupart sont mauvaises. Les bonnes brachot sont lesquelles? Sont les brachot qu'on a récitées le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, le soir du Seder, etc., ou lorsqu'on a une Brit Mila, dans les occasions qui sont vraiment grandioses, qui sont spéciales dans la vie. Alors que les 100 brachot de chaque jour, qui sont en fait la majorité de nos brachot, eh bien, on les a jetés de la bouche sans réfléchir, et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'en effet, chaque bracha, c'est un monde spirituel en soi. Lorsque tu arrives au ciel avec des centaines de milliers de brachot de kavana, eh bien, ce sont des centaines de milliers de mondes spirituels qui vont t'aider à accéder au Gan Eden. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ça ne demande pas un grand effort. Il y a des mitzvot qui sont difficiles à accomplir. Mais là, ça demande, n'est-ce pas, ça demande un entraînement pendant une semaine, deux semaines. En effet, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de méditation, beaucoup de prudence. Et pendant une, deux semaines, de bien faire un effort, de se concentrer, de marquer un temps d'arrêt avant chaque bracha. Alors, si pendant une, deux semaines, on s'habitue à le faire, ça devient une habitude, ça devient automatique, c'est spontané. Et donc, après, avant chaque bracha, eh bien, tu t'arrêtes, tu marques un temps de quelques secondes, même une seconde peut suffire pour marquer un temps d'arrêt, de prendre une certaine orientation. Que tu prends conscience, que tu parles à Hachem, et que tu remercies Hachem de t'avoir donné telle boisson, tel aliment. Que tu demandes à Hachem la permission de consommer tel aliment. Encore un dernier mot, c'est remarquable, c'est même pour un verre d'eau qui est en fait la boisson la plus simple qu'il y a au monde, même pour ça, on bénéficie d'une bracha avant de boire ce verre et une fois qu'on l'a bu. C'est-à-dire que, en effet, il n'y a aucune chose, aucun élément au monde qui n'a pas une signification importante. Je rappelle une petite histoire qu'on avait racontée Déjà une fois, c'est que il y a environ une centaine d'années, un ministre est allé dire au roi, il était antisémite, il a dit au roi, regarde quel peuple d'idiots tu as dans ton pays. Eh bien, tu as des gens qui ont même des halakhot, des directives, comment s'habiller et comment mettre les lacets. En effet, c'est écrit qu'on doit a priori mettre la manche droite du vêtement et ensuite la gauche. Lorsqu'on enlève l'habit, c'est le contraire. Il faut enlever la manche gauche, ensuite la droite. Lorsque tu mets le lacet, c'est le contraire. Il faut d'abord nouer le lacet gauche, ensuite le droit, etc. Et le roi, qui était vraiment très fin et très intelligent, lui a dit, au contraire, moi j'apprécie beaucoup cela. Ça veut dire que pour ce peuple-là, il n'y a aucun domaine dans la vie qui est banal et qui est futile. Mais chaque élément, il a son importance. Même lorsque tu vas t'habiller et nouer un lacet, eh bien, on ne te dit pas, fais ce que tu veux, ça n'a aucune importance, c'est banal, c'est idiot, c'est futile. Non. Même un lacet, il a son importance. On a une Torah, une Hora'a, une façon de se conduire. Pourquoi ? Parce qu'en effet, même cette petite chose, ça a aussi, n'est-ce pas, un côté divin, un côté spirituel. Pareil aussi, et encore plus pour le brachot. Lorsqu'on va réciter une bracha sur un fruit, sur tout Bishvat, même toute l'année, sur un verre d'eau, bien que c'est un verre d'eau, n'est-ce pas, c'est uniquement H2O, c'est très simple, malgré tout, eh bien, c'est si important que ça mérite une bracha avant et après. Alors, je répète encore une fois que ce jour de Tu Bishvat, c'est un jour qui est très spécial. Cette année, on a la chance qu'il tombe un jour de Shabbat. Shabbat, on fait plus de mitzvot, on est plus à la tefila, n'est-ce pas? Déjà, à la page Shabbat, c'est écrit que même sans kavana, tout ce que tu manges, c'est une mitzvah. Même sans intention spéciale, tu vas déjà introduire de la kdusha en toi en faisant uniquement le repas de Shabbat. Si on a tout Bishvat, eh bien on a encore plus exploité cette journée-là d'avoir plus de kavana dans le brachot sur chaque fruit de tout Bishvat.